BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous. Il dirige le leader mondial des matériaux de construction et est au cœur de cette transition verte. Bonsoir Benoît Bazin.
Bonsoir Edwige Chevriot.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général CEO de Saint-Gobain. Évidemment, vous êtes au cœur de toutes ces problématiques. On a écouté la première ministre, Jean Pisani-Ferry aussi, nous donner un peu sa feuille de route, sa guidance par rapport à cette transition verte. Est-ce que vous, qui êtes au cœur de ça, comme je le disais, est-ce que vous avez été inconvaincu? Est-ce que les objectifs qui ont été fixés, du moins pour la France, sachant que vous êtes évidemment un groupe international, vous paraissent à la hauteur, trop ambitieux? Et maintenant, vous avez demandé un plan Marshall. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez avoir votre plan Marshall de la rénovation énergétique?
Alors oui, le plan est sérieux, les objectifs sont ambitieux, parce qu'il faut faire sur les 8 prochaines années autant que ce qu'on a fait depuis 30 ans, en termes de baisse des émissions de CO2. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on s'engage dans une logique d'investissement à 10 ans. Et la troisième, nous le disons chez Saint-Gobain depuis plusieurs années, le bâtiment a un rôle essentiel. Puisque le bâtiment a déjà baissé de un tiers ses émissions depuis 1990, il doit les diviser par deux sur les 8 prochaines années. Donc il y a une place essentielle au bâtiment.
Mais c'est possible justement ?
Alors c'est possible quand on s'engage sérieusement avec les bons moyens dans la rénovation énergétique, parce que aujourd'hui en France, 44% de l'énergie, elle est dépensée dans les bâtiments privés et publics. Donc il faut accélérer la rénovation énergétique. Moi, j'attends de voir aussi les ordres de grandeur, parce que je pense que parfois, on doit avoir des ordres de grandeur sur la prime rénov', sur les certificats d'économie d'énergie, 4 à 5 fois plus importants que ce qu'on a vu sur les dernières années. Mais si on fait de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, on peut accéder à une vraie baisse de la consommation énergétique et des émissions de CO2.
On va voir, vous avez inauguré justement une usine en Norvège avec du plâtre zéro carbone. Il y a aussi les façades zéro carbone que vous nous promettez. Si vous aviez un objectif à nous confier ou à confier à la Première Ministre qui nous écoutait souvent, est-ce que ça serait quoi? Vous lui dites quoi?
Je lui dis qu'en France, 70% des émissions du CO2 viennent de 5 millions de passoires énergétiques. Ce sont les bâtiments qui sont dits F et G. Oui. En 10 ans, on peut traiter ces 5 millions de passoires, c'est-à-dire 500 000 par an. Pour ça, il faut faire 4 ou 5 fois plus d'efforts de soutien de la prime Rénov', de le cibler.
Il faut la monter à combien?
Il faut la monter à 10 milliards.
On est
à
2 milliards et demi. Oui, c'est ça, oui.
On est à 2,5, il faut la monter à 10 milliards et il faut la cibler surtout sur les bâtiments F et G. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont fortement émetteurs de carbone, ce sont eux qui procurent de la précarité énergétique pour des ménages à très faible revenu, et c'est là où on peut faire de la rénovation globale très performante. Donc ciblons tous les efforts publics sur le F et le G et traitons en 10 ans, par un plan Marshall, les 5 millions de passoires énergétiques qui ne sont pas des logements décents en France aujourd'hui.
Ça veut dire que ma prime Rénov', c'est uniquement centré sur les F et G. Les autres, non, ils débrouillent tout seuls.
Les autres ne sont pas émetteurs de CO2. Oui. Donc, pour l'instant, les autres, il n'y a pas de problème de diagnostic de performance énergétique. Ils ne vont pas sortir aussi du marché locatif en 2025 ou en 2028. On connaît le problème de l'accès au logement en France. Il n'y a pas assez de locatifs et il n'y a pas de construction neuve. Donc, il faut impérativement traiter les F et G pour des raisons de justice sociale, précarité énergétique, de souveraineté énergétique de la France, parce qu'on peut économiser beaucoup d'énergie dans les bâtiments, et puis avoir un vrai impact dans une rénovation globale multigeste. Et puis par ailleurs, il faut naturellement que les bâtiments publics soient exemplaires, parce qu'ils font à peu près 40%.
On va revenir là-dessus, surtout je recevais Eric Lombard qui nous avait présenté son plan et du Rénov' pour les écoles.
Oui.
Il est venu l'annoncer ici. Je voudrais qu'on reste sur le privé parce que vous travaillez, d'après les informations de Challenge, vous allez peut-être nous les confirmer ce soir, sur un guichet unique. Ça serait quoi en fait?
Le guichet unique, c'est que chacun connaît sa mairie. Aujourd'hui, il y a plusieurs types d'aides. Elles ne sont pas toujours orchestrées d'ailleurs par les mêmes ministères. Elles sont confuses, elles sont compliquées pour les artisans et pour les particuliers. Il faudrait inventer le Doctolib de la rénovation énergétique. Un guichet unique, vous achetez un bien immobilier, un appartement, vous êtes locataire, vous êtes propriétaire, vous devez rénover pour votre locataire. Vous avez la mairie qui vous donne un accompagnateur de rénovation énergétique qui vous donne l'ensemble des aides auxquelles vous avez droit en fonction du diagnostic de performance de votre bien, de vos revenus, et qui vous accompagne pendant tous les travaux, avant, après, pour faire passer votre diagnostic de F à C. Voilà, donc c'est un guichet unique, finalement, le Doctolib. On l'a vécu pendant le Covid, tout le monde était content d'avoir cet organisme.
Mais c'est une initiative privée, pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne demandez pas à un jeune innovateur de lancer votre guichet ?
Alors, figurez-vous qu'on le fait déjà beaucoup pour accompagner nos artisans, pour les aider dans tous les dispositifs d'aide, pour les former reconnus garants de l'environnement. Donc, Saint-Gobain fait beaucoup, notamment avec nos 2000 agences .p, CDO qui accompagnent.
Il faut continuer, il faut développer,
On continue. Après, il faut naturellement que tous les acteurs s'investissent. Quand France 2030 cherche une innovation de rupture, dans la construction, l'innovation de rupture, c'est juste simplifier, fluidifier l'ensemble de la formation, des guichets, des aides, des diagnostics avant, après les travaux. Donc moi, c'est ce que j'ai d'ailleurs échangé avec Bruno Bonnel, le patron de France 2030. Faites le Doctolib de la rénovation énergétique. C'est ça qui rendra l'innovation de rupture dans le bâtiment et un vrai impact.
C'est Saint-Gobain qui doit le faire, le Doctolib.
On le fait déjà. Donc,
oui,
nous, on n'est pas le seul acteur, mais on va continuer. Et notre rôle de chef de file, c'est d'agréger toute la chaîne très fragmentée des artisans, des architectes, des particuliers.
Vous avez été auditionné au Sénat, vous rencontrez les uns les autres, Benoît Bazin. Vous avez le sentiment quand même que cette fois-ci, on a envie de passer aux actes, parce que Valérie Rabault, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui a été mon invitée hier, elle dit, mais en France, on sait très très bien, alors les rapports, on connaît par cœur, on vous dit, voilà, il faudrait qu'on fasse, et quand on passe à l'exécution, il n'y a plus personne. Est-ce que c'est aussi votre crainte ?
Alors, il y a une vraie prise de conscience sur l'urgence du climat et l'urgence de l'impact du bâtiment qui est au carrefour des enjeux de justice sociale, de climat et de souveraineté énergétique. Donc la prise de conscience est réelle. Maintenant, on a une politique stratégique sur 10 ans, parce qu'on a beaucoup souffert depuis 15 ans, finalement, de yo-yo ou un peu de zigzag sur les politiques de rénovation énergétique. Il faut qu'elle soit stable dans le temps, pendant 10 ans. C'est pour ça que j'appelle un plan Marshall pendant 10 ans. Ouais. Le dernier sujet, en revanche, moi, sur lequel j'attends que le gouvernement fasse plus d'efforts, c'est les ordres de grandeur. On sait que le bâtiment, au sens large, rapporte 100 milliards à l'État. Quand on prend toutes les recettes fiscales, sans même compter la TVA sur les travaux de construction. Si on juge, ce qui est le cas, puisque le gouvernement dit qu'il faut diviser par deux les émissions dans le bâtiment, prenons une partie de ces 100 milliards de recettes fiscales.
Prenons les 50 milliards,
vous dites ? Non, je parle de 10 milliards pour la prime Rénov'. Donc si on passait de 2,5 à 10, ça veut dire on ajoute 7,5, c'est 7% des 100 milliards que rapporte l'État, que le bâtiment rapporte à l'État en termes de recettes fiscales, sans parler des travaux de TVA sur la rénovation. Donc le bâtiment, c'est une filière qui peut s'engager sur 10 ans, qui peut créer 200 à 300 000 emplois locaux pour faire la rénovation, pour accompagner le bien-vivre de tous nos citoyens. Vous le savez, un bâtiment, ça ne se résume pas à quatre murs. C'est un lieu où on éduque, c'est un lieu où on travaille, c'est un lieu où on est bien chez soi, donc ça a une utilité sociale pour la productivité, la croissance de notre pays. Donc moi, je plaide beaucoup au Sénat ou avec les différents interlocuteurs publics que je rencontre sur l'utilité sociale fondamentale.
Mais en même temps, il faut financer cette transition écologique. 66 milliards, 200 à 300 milliards qui ont été chiffrés par Jean-Pierre Ferry. Donc on voit que aussi, ça va coûter très cher.
Alors il faut, et on y rentre, ça c'est bien, aller dans une logique d'investissement. Moi, je regarde un chiffre aussi qu'on ne mentionne pas souvent en France, c'est 1500 milliards de dépenses publiques. On avait des idées, je crois, ou des projets de réforme de la dépense publique. On sait que c'est quand même une des difficultés en France, la ponction, 58% du PIB en dépenses publiques. Si on économisait 5% de ces 1500 milliards, vous avez tout de suite 50 ou 70 milliards, qui est exactement le chiffre que cite Jean Pisani-Ferry, pour précisément investir dans l'évolution de la décarbonation de notre pays. Donc faisons des réformes de structure sur les dépenses publiques et on dégagera des moyens financiers à hauteur des 70 milliards évoqués dans le rapport de Pisani-Ferry.
Et on va rappeler que vous êtes passé par Bercy. J'ai juste une petite question. Lorsqu'on était à l'Élysée, du reste, pour la présentation du plan d'industrie verte par le président Macron, il a dit qu'il faudrait une pause dans la réglementation, ce qui fait absolument hurler, notamment les écologistes, une pause réglementaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, vous qui construisez toutes les maisons, est-ce que vous êtes d'accord avec lui que c'est devenu un casse-tête pas possible ?
Oui, parce qu'aujourd'hui, si on applique la RE 2020, la réglementation de 2020 dans le bâtiment, on est parfaitement dans la trajectoire de 2030 et plus tard même de la neutralité carbone. Donc, il ne faut pas changer les normes tout le temps. Dans le bâtiment, vous savez, les cycles sont longs. Déposer un permis de construire, c'est 18 mois. Convaincre un architecte. Donc, il sort un bâtiment de terre 3 ou 4 ans plus tard, après une réglementation. Et précisément, comme dans les soutiens publics à la rénovation énergétique, ne changeons pas les réglementations tous les 2 ans, sinon on perd les acteurs. Et les artisans ne peuvent pas s'engager, la filière de l'industrie de la construction ne peut pas s'engager.
Donc ça suffit, vous dites aussi.
Les réglementations.
Stop pour l'instant, stop, vous nous dites stop.
Les réglementations d'aujourd'hui suffisent. Avec les réglementations d'aujourd'hui, une bonne rénovation par Saint-Gobain, vous divisez par 5 votre facture énergétique et par 12 les émissions de CO2. Donc si on fait ça partout en France, y compris sur les bâtiments publics, on sera parfaitement dans les clous de la trajectoire 2030.
Une petite question comme ça, qui n'a rien à voir avec le Schmilbic, enfin qui a l'air quand même. Est-ce que vous ne regrettez pas quand même d'avoir vendu la paire, les fenêtres, là, toutes les fenêtres? Parce que aujourd'hui, on a besoin de fenêtres, c'est la rénovation énergétique, donc c'est un peu paradoxal.
Alors nous sommes très présents dans toute la partie rénovation, oui, avec le vitrage, avec nos artisans, parce que notre cœur de savoir-faire chez Saint-Gobain, c'est le milieu professionnel des artisans. Donc nous avons Point P, nous avons CDO, nous avons la plateforme du bâtiment, nous avons le site La Maison Saint-Gobain qui inspire les particuliers pour faire les bons gestes de rénovation. Donc c'est ça le cœur de métier de Saint-Gobain.
Et la paire des fenêtres, c'était pas dans le cœur de métier?
Nous faisons de l'offre de vitrage pour faire des fenêtres, mais à plein d'acteurs de fenêtres différents. La paire, qui est toujours un client de Saint-Gobain, et tout un tas d'autres.
Pour le public, juste un moment, enfin, c'est très 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 important. On parlait des écoles avec le plan EduRénov qui a été présenté par la Caisse des dépôts et la Banque des territoires. Mais c'est 20% du parc immobilier, en fait, grosso modo, qui est une passoire énergétique, quoi.
Au total, 5 millions, c'est à peu près ça, effectivement. Et on voit que par ailleurs, il y a une demande très forte de logement. Il y a 2,3 millions de personnes
public,
en attente.
Dans le public, oui.
Là, vous parlez des bâtiments publics?
Oui.
Oui, alors les bâtiments publics, oui, ça représente, si on prend les établissements de santé et d'éducation, c'est 70% des bâtiments publics.
D'accord.
Et effectivement, c'est à peu près 10 milliards de dépenses de fonctionnement de chauffage pour l'État et les collectivités par an.
10 milliards.
Donc vous voyez bien que si on faisait des efforts pour diviser par 5 la facture, vous passez à 2, vous économisez 8 milliards par an. Donc c'est ça qu'il faut faire à toute vitesse. Alors, moi, je constate que c'est très bien de s'engager sur un bâtiment et un plan pour les écoles, pour la rénovation des écoles. Je ne crois pas qu'on soit encore dans les bons ordres de grandeur. Il y a 30 000 écoles en France. Là, on en cible 10 000.
10 000.
2 milliards sur 5 ans pour 10 000 écoles, ça fait 40 000 euros par an par école. Nous, on a présenté des plans où il faut 8 milliards par an. Donc, pas 2 milliards sur 5 ans, 8 milliards par an pour en 10 ans... traiter vraiment le sujet
et
des
quand
écoles.
Quand vous dites ça, justement, à tous les gens que vous rencontrez dans Paris, les pouvoirs publics, ils vous disent quoi? Ils vous disent, oh, ben, ça y est, Benoît Bazin, il plaide pour sa paroisse, il plaide pour Saint-Gobain, ou pas?
Non, je plaide pour l'utilité sociale du bâtiment. Non, On a fait des livres blancs sur le fait qu'il y a une corrélation entre l'efficacité acoustique d'une salle de classe et l'absentéisme des professeurs. On sait que ce sont des métiers très exigeants. Procurer un bon cadre de vie pour l'enfant qui va bien apprendre, pour l'enseignant qui va pouvoir bien éduquer, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a des difficultés de recrutement, des difficultés d'éducation, parce que le cadre de vie, le cadre de travail n'est pas bon. Donc il faut accélérer et il faut passer dans une ligne d'investissement et ça économisera beaucoup d'argent. Vous avez vu, comme moi, l'université de Strasbourg qui ferme ses portes début décembre. Strasbourg, c'est la capitale de l'Europe en 2022. On ne peut pas accepter qu'en 2023 ou en 2024, ce sera l'université d'Angers ou l'école de Caen. Donc il faut impérativement accélérer la rénovation des établissements d'éducation.
On verra dans un instant qu'est-ce que Saint-Gobain fait, parce qu'en fait vous avez un département innovation, enfin vous avez un centre de recherche incroyable. Et puis là justement, je disais que vous avez été en Norvège pour inaugurer votre usine de plâtre sans carbone. Vous faites des tas de choses, mais juste avant, puisque c'est très présent aussi en Allemagne, est-ce que c'est la même problématique en Allemagne? Ils vont plus vite que nous, moins vite que nous? Comment
alors,
ça se passe?
L'Allemagne historiquement a plutôt bien isolé les bâtiments, parce que la première énergie, c'est l'énergie qu'on ne dépense pas. Donc il faut bien isoler toute l'enveloppe du bâtiment. L'Allemagne a plutôt bien fait historiquement. Là, il y a un peu une cacophonie ces derniers temps. Il y a un besoin de 700 000 logements en Allemagne, avec l'immigration qui est arrivée il y a plusieurs années. Et il y a un peu de cacophonie, je ne vous le cache pas, en ce moment, pour des raisons politiques, en Allemagne, sur le sujet du logement et de la construction de logements. Donc, j'espère que ça va se résoudre, parce qu'il y a des besoins, comme partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a des besoins de logements. En France, il y a des besoins de construction neuve, de rénovation. Et en Allemagne aussi.
Est-ce que vous diriez qu'en France, on a une crise du logement, nous?
Il y a une crise du logement.
Très forte, très forte.
Très forte. Quand vous voyez quelques chiffres, 4 millions de personnes qui sont mal logées, 2,3 millions qui sont en attente de logements sociaux, 5 millions de passoires énergétiques. Il y a une crise forte du logement. Une chute de 30 à 40% du logement neuf. Les maires ne construisent plus. Ils ont perdu le lien direct avec la taxe d'habitation. Ouais. Et la rénovation, on vient d'en parler, il faut faire x4 ou x5 en termes de vitesse de rénovation. Donc il y a une crise profonde du logement. Je crois que certains ont appelé, c'était même une priorité nationale. Moi, je m'y rejoins complètement, parce que sans logement, vous n'avez pas de compétitivité du pays.
Ça se traduit comment dans vos chiffres? vous, de Saint-Gobain ?
Bah, pour l'instant, nous, on tient bien parce que la rénovation est résistante et résiliente, comme on dit. Donc la rénovation, elle demeure parce qu'on fait de l'efficacité énergétique. C'est une priorité partout dans le monde. Et donc les chiffres de Saint-Gobain ont été très bons au premier trimestre, 4,7% de croissance interne. Mais oui, il y a une crise de logement en France et c'est une priorité nationale. Sinon, on va perdre dans l'efficacité d'éducation, dans l'efficacité du pays, dans la croissance du pays. Et le plan France 2030 va souffrir de ça.
Ouais. Juste un mot. 2023 pour Saint-Gobain, vous restez dans vos objectifs?
Nous sommes tout à fait dans nos objectifs.
2022 a été historique, de 2023, est-ce qu'il le sera aussi ou est-ce qu'elle le sera aussi?
2023 sera une très bonne année, on est exactement en ligne avec les objectifs que j'avais annoncés il y a 3 ans à nos investisseurs pour un plan à 5 ans, donc 2023 soit exactement dans le couloir de nage, j'allais dire stratégique et financier du plan de Saint-Gobain qui a profondément changé depuis 5 ans, qui a remodelé sa présence géographique. On a 62% de nos résultats qui viennent d'Amérique du Nord, des pays émergents, d'Asie. C'était la contraposée, c'était plus de 60% en Europe il y a 4-5 ans. On a fait bouger un tiers du périmètre, on a 8 nationalités au comité exécutif du groupe, donc une évolution culturelle, une évolution de périmètre, et puis une stratégie très forte de leader mondial de la construction durable, portée notamment par la rénovation énergétique, et puis aussi ce qu'on appelle la construction légère dans tous les pays, pays émergents. Il faut construire neuf, mais construire de façon frugale pour respecter les ressources naturelles de la planète.
Le prix des matériaux reste toujours très élevé, très très élevé. L'inflation, vous la subissez encore ?
On subit l'inflation, mais quelques ordres de grandeur. On avait subi 5 milliards d'inflation énergie matières premières en 18 mois entre l'été 2021 et fin 2022. Et là, on a estimé à 800 millions pour cette année. Donc je pense qu'on n'est pas très loin de l'asymptote, du plateau.
Le pic, en termes du avant pic, l'été, vous
voilà,
pensez ?
En termes d'inflation, tous les sujets de chaîne d'approvisionnement ont été résolus depuis 18 mois. Donc il n'y a pas de difficultés sur les chantiers. Et je pense que sur l'inflation, on n'est pas très loin. Il y a déjà certaines matières, le bois, l'acier, qui ont commencé à baisser. Donc je pense qu'on va retrouver un tout petit peu d'oxygène sur les prix des matériaux de construction.
Quels sont les marchés qui tiennent pour vous, enfin, puisque vous avez toujours été Saint-Gobain une tour de contrôle un peu de l'économie mondiale et notamment de l'économie européenne, mais là vous rentrez de Chine, comment vous avez trouvé la Chine?
Alors il y a une reprise en Chine, ouais. Modérée. Après, ça dépend des secteurs, mais il y a une reprise en Chine. On a des pays d'Asie du Sud-Est qui souffrent un peu, des pays comme le Vietnam. Les États-Unis, qui est un pays très important pour nous, c'est notre numéro un en résultat. Je pense qu'on n'est pas loin du plancher en termes de logement. On est descendu à 1,4 million contre 1,6 million. Il y a des demandes très fortes, donc la mairie va plutôt bien. On a le Brésil qui est toujours en souffrance depuis 2 ans. Et en Europe, c'est l'Europe du Sud qui tient bien. L'Espagne, l'Italie, la France, d'une certaine façon, se débrouille bien parce que la rénovation énergétique, ça fonctionne. C'est plutôt les pays du Nord, l'Allemagne, vous l'évoquiez, des pays comme la Suède.
Ils sont en retard ou ils sont en avance, donc ils n'ont plus besoin de vous. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, ils sont, en termes de conjoncture économique, un peu plus soumis. La Suède, par exemple, est soumise au taux variable. Les ménages suédois s'endettent dans l'immobilier au taux variable. Donc, ils souffrent plus sur le neuf. Mais en France, en Europe du Sud, ça résiste bien. Donc, l'Europe est résistante. Puis, il y a des pays qui caracolent. L'Inde, c'est le numéro 3 en termes de résultats de pays pour Saint-Gobain. Et là, ça continue de caracoler. On a plein de développement. Donc, au total, ce sera une bonne année. On continue d'investir. On va faire à peu près 2 milliards d'investissements cette année. On embauche. On a embauché 6500 personnes en France l'an dernier. Ce sera aux alentours de 5000 cette année. Donc Saint-Gobain va bien et a vraiment une trajectoire et un cap sur les 30 prochaines années, décarboner le bâtiment, qui est une mission très forte, alignée avec notre raison d'être et qui mobilise beaucoup tous les collaborateurs du groupe.
Coût de la facture énergétique, après je finirai avec les coûts et après on va passer à l'innovation.
Alors on ne donne pas ce chiffre, mais on est grosso modo un tout petit peu en hausse par rapport à l'an dernier. L'an dernier était en hausse de 50% par rapport à 2021. Mais c'est un chiffre confidentiel qu'on ne donne pas. Parce que c'est un chiffre sur lequel...
C'est le moment, comme dis toujours, c'est le moment pour le dire. Vous avez un micro devant vous.
On est entre 2 milliards et 2 milliards et demi de coûts de l'énergie chez Saint-Gobain. Voilà. Mais c'était 1 milliard il y a 2-3 ans. Donc vous voyez, ça a considérablement changé puisqu'on a eu ces hausses énergie et matières premières. Parce qu'il y a beaucoup de matières premières qui sont dépendantes de l'énergie.
Évidemment.
Et donc, il faut globalement penser que 70 à 80% de l'inflation qu'on a vue, elle était liée directement ou indirectement à l'énergie.
Alors, cette usine que vous avez inaugurée en Norvège, vous êtes en Chine, vous allez aller en Norvège, avec du plâtre sans carbone. Expliquez-nous.
Alors, c'est le fruit de beaucoup de travail. Nous avons d'ailleurs les 4 axes de recherche et développement de Saint-Gobain. Vous l'évoquiez, on dépense 500 millions d'euros dans la recherche et développement. Les 4
sont... Oui, vous ne le dites pas suffisamment, c'est intéressant de regarder.
Les 4 sont tournés sur la sustainability. Réduire l'énergie dans nos procédés, aller vers des modes constructifs plus frugaux, bouger très vite sur l'économie circulaire, le réemploi des matériaux et inventer des nouveaux matériaux. Donc c'est le fruit de beaucoup de travail de recherche et développement. Et on a fait l'an dernier plusieurs premières mondiales. On avait fait une production zéro carbone de verre plat. Depuis, on a lancé une offre commerciale avec moins 40% de carbone CO2 dans le verre plat. Des gens comme ICAD, Bouygues Construction nous l'achètent d'ores et déjà. On avait fait 300 000 m² de plaques de plâtre zéro carbone en Suède. Et effectivement, on a lancé la première usine au monde zéro carbone en termes de production pour la plaque de plâtre. Une deuxième va suivre au Canada. C'est un investissement de 90 millions de dollars canadiens qui sera aussi électrifié. En fait, c'est une bascule du gaz naturel à l'électricité, de l'électricité verte, puisqu'on est branché sur le fjord à côté, comme au Canada, on est branché sur de l'hydroélectricité. Donc, c'est des bouleversements en termes de procédés. Et puis, ça nous permet de lancer une offre commerciale bas carbone qui est très attractive pour beaucoup de nos grands comptes et grands clients.
Et cette offre bas carbone, ça veut dire quoi ? Parce que, donc, il y aura des façades aussi bas carbone. J'ai vu que vous avez fait un accord, justement. On pourra avoir une construction d'une maison zéro carbone dans combien de temps ?
Alors, une construction de maison zéro carbone, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps, parce que vous avez ce qu'on appelle le scope 3, donc le périmètre 3, qui est lié, lui, au transport, qui est lié, finalement, à tout ce qui entoure la fabrication. Mais en termes de fabrication scope 1 et 2, je pense que, réellement, en 2030, on peut avoir, si on le souhaite, une maison zéro carbone.
Et alors, il y a toujours une question rituelle que je posais aussi à votre prédécesseur. Quand est-ce qu'on aura des tuiles photovoltaïques ? Vous voyez ce que je veux dire ? On pourra faire un toit, au lieu d'avoir des grosses plaques noires, qui sont quand même très moches. Est-ce qu'on aura des tuiles photovoltaïques ? Est-ce que ça peut exister ?
Alors, ça peut exister. On a notamment une société en Suisse qui s'appelle Megasol, qui fait dans des bâtiments de grande hauteur avec des façades de verre, qui fait l'intersol avec du photovoltaïque. Finalement, vous avez une façade vitrée avec du vert, du bleu, ce que vous voulez comme esthétique de la façade. Et vous ne voyez pas que sur l'intersol, ce sont des cellules photovoltaïques.
Tiens, une question que j'ai oublié de vous poser, mais importante, puisque vous avez dit que votre objectif, c'était vraiment de vous renforcer encore plus aux États-Unis. C'était votre première source de revenus, les États-Unis. Est-ce que l'IRA est quelque chose qui a joué beaucoup dans vos choix, dans votre stratégie ?
Non,
c'est simple, efficace, pragmatique.
Nos choix stratégiques d'aller plus sur l'Amérique du Nord, c'est parce que l'Amérique du Nord est un très grand marché sur lequel on est très rentable et il fallait capter plus de croissance. Donc, on a fait deux OPA aux États-Unis qui ont très bien marché, etc. Donc, nous, c'était un choix par rapport à la taille du marché, au potentiel de consolidation, et nous sommes maintenant numéro un des matériaux de construction aux États-Unis comme au Canada. L'IRA, ça va nous aider indirectement parce que ce sera bon pour l'économie américaine, donc bon pour la construction, bon pour les infrastructures, et ce sont des segments de marché sur lesquels Saint-Gobain est un leader aux États-Unis.
Bon, dernière question qui fâche, c'est toujours la même question. Pourquoi le cours de bourse de Saint-Gobain, il traîne là ? Bon, vous savez, aujourd'hui, vous avez connu une forte chute quand même en bourse. Mais pourquoi vous êtes au cœur de cette transition énergétique, de cette transition verte partout ? On se pose la question en disant pourquoi vous vous traînez en bourse ?
Alors, on ne se traîne pas en bourse parce que si vous prenez 4 ans, on a fait plus 90% et c'est mieux que le CAC 40.
Ouais.
Donc,
ouais,
c'est quand même bien de battre le CAC 40. Et d'ailleurs, à ce soir, alors que la journée a été difficile en bourse, on est en hausse de 17%, le CAC 40 est à plus 12. Vous voyez que sur les 2-3 dernières années, ou même 4, on a fait mieux que le CAC 40. Donc, je prends le verre d'eau à moitié plein, mais je suis d'accord avec vous
qu'il y a
un très gros potentiel de croissance. Et moi, je suis très confiant sur les perspectives de Saint-Gobain parce que c'est la décarbonation, c'est l'efficacité du bâtiment sur les 30 prochaines années. Nous sommes leader mondial dans 75 pays. On a baissé l'intensité carbone de 42% de Saint-Gobain en 5 ans, entre 2017 et 2022. Donc, on est exemplaire sur notre propre empreinte et on maximise l'impact de nos solutions vis-à-vis de nos clients. Donc, moi, je suis très confiant et les équipes de Saint-Gobain sont très, très engagées. Donc, oui, si vous êtes actionnaire de Saint-Gobain, gardez l'action parce qu'elle va continuer de progresser.
Vous avez procédé à une rotation des actifs assez impressionnante depuis que vous avez pris les rênes de Saint-Gobain. Est-ce que vous allez poursuivre, justement
Alors, on continue.
Est-ce que vous allez céder, acheter encore ?
On va continuer parce que une grande entreprise, c'est comme un corps humain, ça respire avec des acquisitions, avec des cessions, et donc on a un certain nombre de projets. On a d'ailleurs un bilan très solide, on a une dette qui fait 1,2 fois l'EBITDA, donc on a été d'ailleurs remonté dans notre note financière par Standard & Poor's récemment. Donc on a la capacité de saisir les opportunités, et on regarde en ce moment un certain nombre de projets. On va continuer à faire des cessions de périmètres quand c'est trop loin de la stratégie ou trop loin de nos attentes financières, donc c'est une discipline, une routine finalement. On a fait 100 cessions, 150 acquisitions sur les 4 dernières années.
Et en 20 secondes, mais comme ça vous allez revenir me voir, Benoît Bazin, est-ce que ça... J'ai vu que vous avez mis un ticket, comme on dit, dans des startups, dans une startup notamment, Savoyard, je crois. Est-ce que c'est... est-ce que c'est important pour vous de mettre des petits tickets parce que l'innovation, ça passe par les startups ?
Alors nous sommes très open innovation, donc innovation ouverte. On a un fonds de 20 millions de dollars par an sur des startups qui prend 30, 40 participations ou des accords technologiques ou des accords commerciaux. Donc c'est quelque chose de très actif, effectivement, et aussi innovation avec nos clients, avec nos fournisseurs. On est leader mondial du verre automobile pour le véhicule électrique, par exemple. Donc c'est beaucoup d'innovation, start-up ou interne Saint-Gobain, mais très ouverte parce que l'écosystème bouge à toute vitesse.
Merci beaucoup, Benoît Bazin. On a compris que c'est une réalité, mais c'est ça qui est important, c'est de montrer
et
que
on la vit tous les jours.
Voilà. Oui. Et vous la vivez, vous la produisez tous les jours. Nous, on la vit plutôt tous les jours. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été avec nous. Benoît Bazin, le patron de Saint-Gobain, dans un instant, Tech & Co, François Sorel. Demain, ça sera un start-upper, Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis. Il lance UART, vous qui aimez beaucoup l'art. Vous allez voir, c'est très intéressant. Rendez-vous demain, d'ici la bonne soirée, QR code pour revoir. C'est un entretien avec Benoît Bazin ou sinon sur le site de BFM Business. Et tout de suite, Tech & Co, on va parler start-up justement.